que France Télévisions lui envoie les comptes de l'entreprise et les contrats de production, mais France Télévisions veut sécuriser au maximum ses documents et exige que Charles Alloncle les consulte seul. Alors ça représente plusieurs dizaines de milliers de pages. Le député a demandé à ce que ses collaborateurs puissent également y avoir accès. Ça peut s'apparenter à un délit d'entrave, selon Charles Alloncle. C'est ce qu'il dit dans Le Point, pour qui on essaye manifestement de mettre le couvercle sur des dossiers sensibles.
Nelson Montfort, vous qui avez passé combien de temps à France Télévisions ?
Entre le contrat définitif, ouais. on va dire 28 ans.
28 ans, ouais, vous n'avez pas été convoqué par cette commission d'enquête parlementaire.
Non, c'est vrai, vous me... Après tout, ça va peut-être donner une idée.
Vous auriez des choses à dire ?
Oui, des choses positives, des choses peut-être un petit peu moins positives. Je suis un homme libre, vous savez, Thomas. Ouais. Donc voilà, je me suis déjà exprimé sur pas mal de sujets depuis mon départ entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que bon, je continue à travailler pour mon plus grand bonheur avec Michel Drucker le dimanche après-midi. Donc voilà, sauf que c'est une production extérieure, c'est pas une. Et puis bon, en retrouvant mon complice, on a quand même commenté
19 ans.
Oui, 19 ans, mais non, j'allais dire, parce que comme il y a des Jeux Olympiques qui vont s'ouvrir dans 3 semaines, combien de Jeux Olympiques ensemble? Je sais plus, 5 ou 6. Jeux Olympiques, entre parenthèses, Thomas, je me permets une petite parenthèse dont très peu de monde parle. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis.
C'est dans 3 semaines, on n'en parle pas.
Et même les Italiens ne sont pas à l'affût des Jeux. J'ai parlé à des gens sur place.
C'est assez curieux, ça. Moi, je vois une petite explication. La première, c'est qu'il y a trop d'événements sportifs. Il y a tout le monde, tout se mélange, etc. Puis la deuxième, c'est pour nous autres ici, c'est vrai que les Jeux de Paris se sont terminés il y a moins d'un an et demi quelque part. Et donc, je pense qu'on va j'espère qu'on va commencer à en parler. Mais enfin, il serait temps.
Ouais, on en redira un mot tout à l'heure, effectivement, de ces JO. On passe maintenant au groupe TF1 qui a fait de grandes annonces ce week-end, Julien.
Ouais, TF1 veut tenter de conquérir de nouveaux téléspectateurs, où ça ? Sur Netflix. À partir du mois de juin, les abonnés français auront accès aux chaînes du groupe TF1 ainsi qu'aux programmes à la demande directement depuis la plateforme de streaming. C'est ce qu'a annoncé le président, directeur général de TF1, Rodolphe Belmer, lors d'une interview accordée à West France. Son objectif, évidemment, c'est de toucher une autre audience, celle qui ne regarde pas ou plus beaucoup la télévision.
Et c'est vrai que c'est une très grande question stratégique, ça, pour toutes les chaînes. En ce moment, on a vu que M6 aussi signe des accords avec Amazon. Est-ce que il faut donner la priorité à ces plateformes et donner ces programmes à ces plateformes, ou au contraire essayer de mener la bataille contre elles? C'est une vraie question stratégique qui se pose toutes les chaînes
de demain.
Absolument. Ouais. Et dans cet entretien, Rodolphe Belmer a également évoqué le rachat d'M6 par TF1.
Ouais, le PDG affiche une nouvelle fois sa volonté d'acquérir M6, un projet qui avait déjà été évoqué il y a plusieurs années, qui n'avait pas abouti. Ce rachat sera possible d'ici 2028, car la fusion est juridiquement impossible avant cette date.
Professionnel, vous avez besoin d'un utilitaire pratique et abordable ? Découvrez Citroën Berlingo Van à seulement 159€ hors taxes par mois. Modulable et économique, il s'adapte à toutes vos missions au quotidien. Il est disponible immédiatement en stock limité et bénéficie de jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Découvrez également Berlingo Van XTR, notre version suréquipée. Rendez-vous vite dans votre point de vente Citroën.
Citroën. Crédit bail 60 mois à 100 000 km. Premier loyer de 5 700€ hors taxe. Offre professionnelle jusqu'au 31 janvier. Si acceptation crédit part. Détails sur citroën.fr. Ouais.
On termine avec Canal+ et la saison 2 de BRI qui continue, Julien.
Ouais, ce soir, la chaîne cryptée va diffuser l'épisode 3 de BRI à partir de 21h10. Les personnages principaux de cette série ne sont pas incarnés par des vedettes grand public. Vous l'avez remarqué peut-être. Ouais. C'est un choix. Le réalisateur de la série, Jérémy Guez, nous a expliqué pourquoi il souhaitait mettre plutôt des comédiens moins connus du grand public en tête d'affiche au sein de la brigade de recherche et d'intervention.
L'idée de BRI de base, c'est d'avoir des guests qui sont assez identifiés et d'avoir des acteurs récurrents qui sont pas connus du grand public. C'est une des chances de la série. Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça. En France, on a quand même la maladie d'avoir les 10 mêmes personnes dans tous les types de rôles tout le temps, quand même, il sera très bon. Je trouve que c'est catastrophique.
Voilà, il faut laisser un petit peu, le message est passé. Hein, disons,
il faut laisser un petit peu de place aux autres. Excellents, ces acteurs, qui ne sont pas connus du grand public. Et la saison 2 de BRI, elle est vraiment très réussie. Elle est vraiment réussie.
Ils sont même parfois meilleurs que des acteurs très connus du grand public.
Parfois, absolument.
Merci beaucoup, Julien, pour ce journal de médias.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h-11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas.
Avec deux légendes du sport, Philippe Candeloro et Nelson Montfort. Merci d'être là ce matin. Alors, pas pour parler de patinage artistique, mais pour la nouvelle saison d'une télé-réalité W9, les apprentis champions au ski, où des candidats avec des prénoms qu'on découvre, comme Tressia ou Olivani, vont
C'est mon équipe, ça. C'est mon équipe.
Les prénoms les plus originaux.
C'est vrai,
en plus.
J'ai du mal à m'en souvenir, Olivani, parce que c'est vraiment pas commun.
C'est original. Hein,
c'est original.
Et donc, ils vont s'affronter dans des épreuves de sport d'hiver. Et alors, vous avez deux rôles très différents l'un de l'autre. Vous voulez nous expliquer, Philippe, d'abord
peut-être? C'est pas comme d'habitude, en fait. Ouais. Je suis pas à côté de Nelson pour commenter les épreuves sportives des candidats. Moi, je suis coach. Et en face de moi, il y a Souria Bonali, qui est l'équipe des rouges. Moi, j'étais l'équipe des jaunes.
Ouais.
Et donc, on avait chacun 8 candidats. Et donc, il a fallu les coacher. Alors, c'est les apprentis au ski. Mais en fait, il faudrait dire neige et glace. Parce qu'il y a du ski, mais il y a aussi du patinage.
Oui,
alors, c'est pas du patinage artistique avec des prouesses techniques très exigeantes. Oui, parce qu'il y avait très peu.
Artistique et peut-être en trop.
Justement, je dirais que l'artistique était plus respecté que la technique. Parce qu'on avait très peu de séances de coaching pour les coacher. Mais je veux dire, moi, je me suis bien amusé dans cette émission.
Ouais. Et Nelson, vous avez un rôle différent, là. Vous êtes
commentateur. Oui, j'étais donc le commentateur avec Benoît Dubois, que je tiens à saluer, parce que c'est un personnage baroque.
Qu'on a connu dans Secret Story, voilà.
Ouais. Pour qui est vraiment un garçon absolument adorable. Ouais. Et on s'est vraiment, vous le connaissez peut-être, on s'est beaucoup, beaucoup amusé. Je pense que c'est un programme qui va plaire aux téléspectateurs. Je pense que c'est un programme qui va plaire aux... Je pense peut-être que mon recrutement en est peut-être un signe qui va plaire... Bon, jeune, ça va de soi, mais peut-être également au plus
de 90 ans.
Voilà, merci.
Vraiment, voilà, Nelson.
Toujours valorisant.
Voilà, c'est toujours. Et alors, j'ai l'habitude.
Et alors vous devez faire ce coaching avec des candidats qui sont loin d'être des pros. Philippe, c'est quand même assez particulier. Il y en a certains qui en sont encore au chasse-neige quand même.
Ah oui, et puis en plus, c'est pas moi qui fais le casting. C'est-à-dire que le casting nous est imposé. On le découvre le matin même de la première épreuve, du premier coaching au ski. Donc effectivement, faut regarder un petit peu les aptitudes physiques, techniques et puis mentales aussi, parce que il y en a qui se sentent un peu plus élevés que les autres, ils veulent pas travailler, donc il faut. Moi, j'avais un rôle, ce qui était pas très facile, parce que d'habitude on me voit un peu plus drôle, un peu plus marrant, voilà, un peu plus loufoque, mais là. Il fallait garder quelques distances.
Pour un peu de fermeté aussi, ouais.
Voilà, parce que sinon, ça peut très vite être un débordement. On est un peu dans une colonie de vacances qu'il faut savoir gérer. Hein.
Et on sent votre côté quand même compétiteur, Philippe Candeloro, qui reprend le dessus parce que vous avez envie de gagner face à Souria Bonali. Il y a aussi ça, quoi. Alors, vous avez envie que votre équipe gagne.
C'est pas vis-à-vis de Souria Bonali que j'avais envie de gagner, parce que c'est une grande copine et on n'est pas dans ce rôle-là. Mais on est dans le rôle de faire gagner nos candidats pour qui se surpassent, en fait, qui soient heureux et fiers d'eux. Et puis au bout, il faut savoir quand même que c'est une émission où ça fait rapport. Porter de l'argent à des associations. Donc moi, c'était la Fondation Philippe Châtrier. Et je dois dire qu'à chaque fois que nos candidats gagnaient des médailles, il y avait une fierté pour eux. Mais chaque médaille représentait un gain financier pour l'association. Donc c'est pour ça que, effectivement, l'esprit du compétiteur était assez présent.
C'est quand même là. Mais c'est quand même assez surprenant de vous voir comme ça dans une télé-réalité, notamment Nelson Montfort. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté?
Je pense déjà que la période n'est pas anodine. Je veux dire, là, c'est vrai qu'on entre dans une période d'activité de neige et glace, même si on ne parle pas beaucoup des JO.
C'est programmé à ce moment-là.
Oui, bien sûr, on ne va pas programmer ça au mois d'août, ça c'est certain. Mais je pense que, c'est vrai qu'on y aura peut-être une rediffusion, je ne sais pas. Mais je pense que le fait de reconstituer ce duo n'est certainement pas anodin dans l'esprit des programmateurs Benjamin Jazzy et toute son équipe. Je tiens à dire d'ailleurs que vraiment ça a été vraiment une ambiance extrêmement chaleureuse et c'est vrai que de travailler de manière agréable, sympathique et ça, c'est une télé-réalité Thomas certes, mais ce n'est pas que ça parce que malgré tout, voilà, j'ai quand même eu le sentiment Tressia dont on parlait à l'instant est quand même une patineuse de qualité.
Ouais, elle a patiné plus de 10 ans.
Et vraiment, voilà, c'était pas des candidats qui chutaient comme ça, ils essayaient de faire de leur mieux.
Mais vous les connaissiez pas ces candidats.
Non, c'est mieux comme ça.
Vous n'êtes pas des téléspectateurs.
Sur la question,
c'est ces programmes.
Moi, quand on m'a proposé une télé-réalité, je dis voilà, c'est se mettre aussi un peu en danger parce que c'est pas vraiment notre cible. C'est des personnages qu'on ne connaît pas forcément puisqu'on regarde. Moi, je regarde pas personnellement des émissions de télé-réalité, donc j'ai appris à les connaître. Et puis finalement, le rôle qu'on a tous les trois, même avec Benoît est un peu plus dans ce milieu-là parce qu'il les a connus, il a fait beaucoup d'émissions avec eux. Moi et Souria et Nelson, je pense qu'ils étaient plutôt pas mal. Finalement, c'est qu'on n'était pas dans la vie de la télé-réalité. On était à l'extérieur, on était des coachs qui retrouvaient en fait ces personnalités du monde de la télé-réalité pour des épreuves sportives.
Et il y a quand même un gros décalage avec vous. Comment vous l'avez ressenti, vous ?
Avec Philippe, il y a toujours du décalage.
Oui, c'est l'avantage, en fait, il est décalé avec tout le monde. Mais là, quand même, c'est quand, par exemple, je vois Souria Bonali qui écarquille les yeux parce qu'il y a une candidate qui lui dit « Ah, attention, il ne faut pas que je tombe sur mes fesses parce que j'ai des prothèses de fesses. » C'est quand même assez particulier, quand même.
Non, mais Souria, elle m'éclate des fois parce que quand elle entend ça, elle dit « Quoi t'as mis, c'est quoi, on appelle ça du BDL ou je ne sais pas quoi ?»
BBL.
Ah, du BBL, voilà.
C'est la technique.
Alors, ils se parlaient entre eux comme ça. Alors, effectivement, je pense que le plus dur pour ces gens-là, c'est effectivement de se continuer à se maquiller pour aller faire des épreuves.
Ouais,
ça met du temps. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance entre les uns et les autres. Franchement, moi, je m'attendais à plus délicat à manager. Et moi, j'ai même pas eu besoin de m'énerver parce que déjà, il nous témoignait beaucoup de respect envers moi.
Beaucoup d'admiration.
Beaucoup d'admiration envers moi et Souria. Donc, finalement, non, c'était bon enfant. Et franchement,
vous avez quand même accroché avec eux, quoi.
Oui, et puis il faut dire que c'était quand même une sacrée prod. Hein. C'est plus de 60 personnes sur le tournage. Ouais. C'est un tournage de professionnels. Hein. Et puis ça donne bien, je trouve. On a vu que le premier épisode, nous, à ce stade-là. Hein.
Ouais.
Je pense que ça donne envie. C'est ce que j'ai, il y a quelques instants, c'est une émission qui est chaleureuse, qui est gaie, qui est sympa à suivre, quoi. Ouais. Qui est vraiment très sympa à suivre, que ce soit dans la production et surtout, nous l'espérons évidemment, par le nombre de téléspectateurs.
Et si vous autorisez ça, Nelson, aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus libre vis-à-vis de France Télévisions.
C'est un joli mot de la langue française que vous me prononcez, Thomas. C'est même le plus joli mot de la langue française, celui de liberté, effectivement. J'ai la liberté de... Déjà, j'ai la liberté de choisir de travailler, si on peut appeler ça du travail. En tout cas, oui, c'est du travail, malgré tout, mais avec les gens que j'aime. Mmh. Ça, c'est très important. Et en Philippe, on est évidemment l'incarnation. Et c'est vrai que j'ai l'impression de poursuivre une jolie aventure. Vraiment, oui, c'est exact. Que ce soit là ou que ce soit au théâtre, comme vous le savez.
Bien sûr.
Et le fait, je pense, de se mettre un peu, on sort de notre zone de confort quand on va sur une émission comme celle-ci, mais en fait, on se laisse guider, et je crois que aussi de montrer qu'on a envie peut-être d'exister auprès d'une jeunesse qui nous connaît même pas.
Ou moins, en tout cas.
La dernière fois, j'étais avec deux personnes qui faisaient Staps et qui étaient joueurs de tennis et un autre de boxe, ils connaissaient même pas Nelson Montfort, qui me connaissent pas moi encore.
T'es en formation de sport.
En formation de sport, ouais. Ils connaissaient pas celui qui a commenté le tennis pendant plus de 20 ans.
Ça, c'est aberrant.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les jeunes, ils sont que sur les réseaux, que sur les plateformes, et c'est bien de se faire connaître auprès d'eux.
Aussi parce qu'on vous voit moins sur France Télévisions aujourd'hui, malheureusement, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a une forme de frustration, là, justement, à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent, de se dire que vous n'allez pas en être cette
fois-ci ? Pour répondre directement à cette question, Thomas, oui. Il est évident que quand arrivent les grands moments, que ce soit le tournoi de Roland-Garros dont on parlait tout à l'heure, ou à fortiori des Jeux Olympiques, c'est vrai que ça nous manque. On ne peut pas dire que ça ne nous manque pas. Maintenant, cela dit, j'ai vraiment, encore une fois, j'ai vraiment tourné la page, vous le sentez au ton de ma voix. Ouais. J'ai vraiment tourné la page, je suis vraiment convié dans beaucoup d'émissions, comme celle-ci, et ça me fait hyper plaisir, surtout avec vous, comme vous le savez. Je suis vraiment libre d'accepter. Je pense d'ailleurs que cette aventure ne se terminera pas là. Je pense qu'on devrait pouvoir continuer. J'ai pas mal de sollicitations, dont une risque d'arriver assez vite, et vous serez les premiers informés.
Dites-nous.
Vous serez les premiers informés.
C'est pas une frustration, je pense, de ne pas faire les Jeux. Voilà. C'est une certaine nostalgie pour nous, parce qu'on en a tellement suivi. Ouais. Et puis que Nelson était un amoureux de ce sport, en fait.
Je le suis toujours.
Commenter le patinage artistique.
Ça reste une passion chez vous.
Bah oui, puis moi c'est mon métier.
Et vous, c'est votre vie.
Je suis toujours proche de ça. Donc écoutez, il y aura peut-être d'autres aventures nous concernant. Aujourd'hui, effectivement, grâce aussi aux plateformes, demain, ce sera peut-être une autre manière de diffuser le patinage, et on pourra peut-être se retrouver, puisqu'on ne sera pas confronté en fait à une législation de départ à la retraite.
Nelson, j'ai une petite question à vous poser, parce que j'essaye de recouper les infos dans ma tête. Là, vous êtes sur W9, vous faites les apprentis champions au ski.
Et au patinage.
Est-ce que c'est la prochaine émission dans laquelle on pourrait vous voir, c'est Les Traîtres, par exemple, sur le même groupe?
Je suis moins fan. Non. Pour ne rien vous cacher, on me l'a déjà proposé.
D'accord.
Je suis moins fan, puis je pense pas que je serais très bon là-dedans, parce que j'ai du mal à masquer. J'ai du mal. Ouais, c'est ça.
On lit en vous comme dans un livre ouvert.
Je vous réponds très honnêtement.
C'est exactement le même problème.
Voilà.
On s'en rendrait compte tout de suite. Je serais plus tenté. Enfin, normalement, de ma personnalité, je serais plus un loyal. Mais là, évidemment, dans une émission comme ça, si on vous dit
si vous étiez traître, on le saurait tout de suite.
Jouer le jeu, et là, ça devient beaucoup plus difficile. possible.
Ah, ce serait drôle. Ce serait... Moi, ça m'amuserait de vous voir là-dedans, en tout cas.
Bon, les deux traîtres avec Nelson.
Ce sera les apprentis champions au ski. Donc ça, ça commence aujourd'hui. C'est du lundi au vendredi à 17h40 sur W9. Et puis restez avec nous, Philippe Candeloro et Nelson Monfort, parce que dans un instant, on va revenir sur quelques souvenirs.
Et puis tiens, je voudrais profiter de ce lundi pour bien commencer la semaine avec Europe 1 et vous proposer un tout nouveau podcast génial. Depuis ce matin, vous pouvez redécouvrir en podcast l'émission musicale 5-6-7, émission mythique d'Europe 1 qui était présentée par Jacques Ourévitch dans les années 70. Alors le principe de cette émission était génial. Les invités chantaient les tubes des autres artistes. Donc dans le podcast, vous entendrez Serge Gainsbourg qui reprend les Playboy de Jacques Dutronc, Michel Berger qui interprète Ma Déclaration en duo avec France Gall, ou encore Claude François qui chante Une belle histoire de Michel Fugain.
C'est un beau roman, c'est une,
là, c'est Clo-Clo.
Une belle histoire.
C'est bien.
C'est une romance d'aujourd'hui.
Alors, si vous avez envie de revivre ces grands moments de l'émission 5, 6, 7, au cœur des archives, au cœur des archives, l'émission 5, 6, 7, c'est un podcast à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h30.
Culture Média.
Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, c'est le comédien Francis Huster qui nous rejoindra. Mais on est encore quelques minutes avec Nelson Monfort et Philippe Candeloro. Et je voudrais maintenant revenir sur quelques souvenirs. Voici le premier. La musique de D'Artagnan, la musique de D'Artagnan qui accompagne votre magnifique performance que j'ai revue hier à vos derniers JO, hein, Philippe, les JO de Nagano.
Au siècle dernier.
C'est un moment incroyable, ça, ce que vous avez vécu, parce que personne ne vous attendait à ce niveau-là, on peut le dire.
Bah oui et non, parce qu'en fait j'avais déjà eu la médaille en 94, 4 ans plus tôt, donc c'est une saison très compliquée, 96-97, blessé pendant quelques mois sur le programme de Lucky Luke, j'ai pas été très performant, je me suis reblessé avec le programme de Napoléon en 97, et 98, oui effectivement, on me voyait peut-être pas médaillé, sachant qu'en plus il y avait les jeunes derrière qui poussaient pas mal, moi je savais que c'était ma dernière Olympiade, mais ce programme de D'Artagnan a tout de suite fait mouche en fait.
Et avant ce programme libre, là vous étiez 5e du classement,
c'est ça.
Et grâce à D'Artagnan, vous êtes passé 3e, donc vous avez eu cette fameuse médaille
fort
de bronze.
Vous êtes fort, Thomas.
Vous étiez au commentaire, Nelson.
Oui, absolument.
J'ai eu un 6-0 ce jour-là, puisqu'on était encore au 6-0 à l'époque.
Philippe est passé à quelques centièmes de la médaille d'argent, je crois que c'est ça.
Avec Elvis Stoïko qui fait 2e, comme en 94. Mais en fait, ce programme, il a surtout déclenché. Aujourd'hui, les gens se rappellent peut-être plus du gars qui a fait le truc à l'épée de D'Artagnan. Bah,
sans épée.
Sans épée, ce qui est très fort.
Et c'était une des premières fois qu'on voyait une trajectoire en ligne droite là, de petits pas à la fin de programme où je donnais vraiment beaucoup d'énergie dans cette suite de pas. C'était le chorégraphe Joseph Arena qui avait chorégraphié ce programme. Il m'avait vraiment donné des clés qui me permettaient de faire de la chorégraphie sans me fatiguer. C'est-à-dire que c'était vraiment de l'écriture chorégraphique qu'il avait su me transmettre. Et ça a été vraiment un bonheur pour moi, parce que je le vois aujourd'hui, les gens se rappellent.
Se souviennent de ça. Ça nous a tous marqué. Vous étiez déjà proches tous les deux ou pas?
Les candidats de l'émission s'en souviennent un petit peu moins.
Oui, si
j'en juge par leur performance sur la glace, il y a encore un petit peu de travail. Mais oui, j'ai rejoint, si je puis dire, Philippe, aux commentaires au milieu des années 90, puisqu'au départ, il y avait un contrat d'exclusivité, me semble-t-il, avec TF1, mais ensuite avec Isabelle Duchesnay, vous savez, la patineuse canadienne, dont tout le monde se souvient. Nous avions commenté les performances de Philippe avant de le rejoindre au micro.
Allez, un autre extrait sonore.
Magnifique double loot, ce piqué. C'est extraordinaire, Patrick. C'est merveilleux. Regardez ça. Ces petites jambes fines que surmonte un extraordinaire fessier rebondi que l'on aperçoit sur cette jupette en tulle avec cette culotte qui lui rentre dans les fesses. Non, mais regardez ce cul qu'elle a. C'est incroyable et quelle salope.
Oui, merci, Nelson.
C'est les guignols. Ce sont les guignols. Ces gens-là.
Il n'y avait pas encore
l'IA.
C'est une très bonne parodie qui est assez proche de la réalité, finalement. Parce que je pense que s'ils ont sorti ça, c'est qu'il n'y avait pas de fumée sans feu.
Voilà. Vous les regardiez, les guignols de l'info, parce que vous aviez tous les deux votre marionnette au guignol. Est-ce que ça vous est marré? Est-ce que de temps en temps, ça vous blessait un peu cette caricature?
Honnêtement, pas du tout. J'en ai parlé avec quelqu'un que vous connaissez tous, Bruno Gassiot, qui est un ami, qui a était le
auteur des Guignols.
Il me disait que moi, ma marionnette permettait de mettre en lice d'autres personnes, c'est-à-dire soit par des interviews, soit par des sportifs, etc. Donc j'ai jamais eu, et puis mais jamais eu aucun problème avec ça. Et puis sans doute mes origines anglo-américaines me font dire que l'autodérision, c'est parfait. Ouais. C'est de se moquer d'autrui, c'est assez facile. Se moquer de soi-même, ça l'est un peu moins. Ceux qui me connaissent, Philippe le sait, j'ai aucun problème avec ça.
Vous aussi, Philippe, ça allait ?
Moi, j'ai connu les deux étapes, en fait. Parce qu'il y a l'étape où j'étais patineur chez les Guignols. Ouais. Et après, l'étape où, effectivement, ils reprenaient un petit peu ce qu'on faisait en commentaire. Mais c'est ce qui a fait aussi la notoriété de notre duo, voire notre trio, et qui a amené du monde à écouter le patinage. D'ailleurs, les gens nous disent, on écoute avec vous le patinage. Mais c'est vrai qu'avant, avec l'épopée de Papin, on connaissait aussi que de temps en temps, cette émission lui a fait du mal pour sa famille. Parce qu'on nous faisait un peu passer pour des abrutis, nous, les sportifs. Quand je faisais D'Artagnan, je me retrouvais le lendemain matin avec 36 épées dans le dos parce que je m'étais cassé la figure sur le programme. Et donc, t'en prenais plein la gueule. T'avais tes collègues à l'entraînement qui te disaient « Ils sont bien foutus de ta gueule aujourd'hui, les Guignols ». Mais bon, ça fait, comme dit Nelson, en fait, les Guignols valaient mieux y être que pas y être. Parce que ça voulait dire qu'en fait, t'étais déjà une personnalité aimée des Français.
Et donc ça comptait. Allez, un autre générique.
Interville
que vous avez animé ensemble.
Absolument.
En 2009.
Ça a signifié la fin de cette émission.
J'ai fait couler le programme.
J'ai animé Jeux sans frontières et Interville pour la dernière fois. Les deux émissions ne s'en sont pas
Rideau,
exactement. Donc avec Philippe, nous étions à Amnéville, de mémoire, en Moselle.
Nelson a fait peur à la vachette, elle a plus jamais voulu revenir.
Donc voilà. Mais
c'était
là aussi,
sur France
ça reste
3 à l'époque.
Oui, absolument. Ouais. Mais ça reste, au contraire, je pense, c'est vrai que c'est notre duo, je pense, effectivement, je pense que vous le savez, enfin, vous le reconnaissez. Marc, je pense, continue à marquer, je l'espère, en tout cas, en dehors des sphères du patinage. Parce que, juste une précision, Thomas, le patinage artistique, bon, déjà, il y en a 3-4 fois par an, grosso modo, entre novembre et mars. En plus, c'est souvent à Tokyo, comme notre pièce de théâtre, ou à, je sais pas, au Canada, en Amérique, etc. Ça passe à minuit. Ça passe pas en direct, comme Sénégal hier soir, à 20h30, n'est-ce pas? Ça passe. Et donc, je pense que notre duo, malgré ces obstacles, existe, continue d'exister, j'espère, dans le cœur des gens.
Sur Interville, on s'est un peu, ils se sont tirés un peu une balle dans le pied, puisqu'on n'allait pas dans les villes. On a tourné toutes les émissions à Amnéville à l'époque. Donc, aller demander à quelqu'un qui habite à Amnéville de porter un t-shirt de Marseille pour supporter un Marseille Dax, c'était
compliqué.
Un peu compliqué pour continuer à avoir la même ambiance, parce que la genèse de cette émission, c'est quand tu vas dans les arènes de Dax, stades, rencontrer Marseille et compagnie.
Et vous avez regardé le retour d'Interville cet été ou pas?
Non,
vous n'avez pas regardé.
On a vu qu'il y avait au début, c'était un peu compliqué, mais bon.
Ça a plutôt bien marché finalement.
S'ils trouvent la bonne ambiance entre les villes, c'est ça qui est génial. Et puis il y a plein de gens qui ont aujourd'hui envie de se donner un petit peu des challenges.
Joli programme d'été, très aimé par le général de Gaulle, le saviez-vous?
Ah bon?
Oui, le général de Gaulle aimait beaucoup ce programme. Et d'ailleurs, c'est sous les auspices du général de Gaulle, si je puis dire, et de son gouvernement, que Jeux sans frontières, tout ça j'ai appris quand j'ai animé, que Jeux sans frontières a été créé par la suite, à l'époque où il y a l'Europe des 6.
Voilà. Allez, un dernier extrait. Danse avec les stars.
Ça dit rien, Nelson, ça. Non, il est pas resté assez longtemps.
Il a fait un blackout.
Me taquine là-dessus. C'est une réplique de notre pièce, effectivement. Il me dit vous êtes resté 2 minutes dans Danse avec les stars. Non, je dis 2 minutes 30.
Parce que alors vous avez été finaliste à Danse avec les stars, Philippe Candelo, de la deuxième saison.
2011,
vous avez fini deuxième, juste derrière Scheim.
C'est ça.
Donc très
excellente, Scheim. Genre, personne n'aurait pu la battre.
Indépassable, absolument. Mais vous avez fait quand même une très belle performance. Bon, c'est vrai que Nelson, en revanche, ça a été plus compliqué.
Plus flagché, clair.
C'est ce que dit Pierre de Coubertin, fondateur de l'important est de
participer.
Bien sûr. Mais c'est vrai que les jurés ont été assez durs à l'époque, suite à votre première prestation. Je crois que je me souviens que vous avez eu la note de 2 à un moment de Chris Marquez, qui disait que finalement vous aviez pris. Et en fait, ce qu'ils vous ont reproché, c'est de prendre le programme un peu par-dessus la jambe, sans mauvais jeu de mots.
Ce n'est pas exact. Bon, je veux dire, maintenant, 10 mois après, je m'en suis remis. Mais ce n'est pas exact. Franchement, les entraînements, les répétitions étaient longues, parfois ardues. Enfin, Philippe sait tout ça. Et j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Je ne pensais pas sortir aussi vite. Mais enfin, apparemment, ma prestation a dû marquer les gens, puisqu'on m'en parle encore. Donc, voilà.
Dans une compétition, on parle souvent du premier, mais aussi du dernier.
Comme dans le Tour de France cycliste, il faut le premier ou dernier.
Finalement, c'était bien joué.
Ce que je trouvais dommage chez Nelson, c'est pas dans cette émission, ce qui est compliqué, c'est qu'aller demander autant d'entraînement à une personne qui a déjà plus de 70 ans et quelqu'un qui en a 25.
50 ans de différence, c'est imaginez seulement, entre certains, on peut pas juger, 45 ans de...
On peut pas juger, on pourrait laisser Chris Marquez mettre des deux, mais il faudrait que les gens qui sont un peu plus âgés aient peut-être des points de handicap supplémentaires en disant, s'il avait 3 points d'handicap parce que par rapport à son âge, ça aurait fait 5, donc c'est moins. En fait, le 2, je trouve qu'il est blessant.
Il est injuste.
Il est violent.
Il n'est pas injuste parce que sur la partie technique, on ne va pas dire que Nelson méritait
un 10. Attention à ce que tu veux dire.
Il n'est pas injuste parce que c'était nul.
Mais... Non, en termes de qualité technique...
En fait, il était trop généreux.
Jean-Marc, d'ailleurs.
Merci. Oh, magnifique. Ouais. Merci, Philippe Candeloro. Merci Nelson Montfort.
Europe 1.
Oui, vous êtes bien sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média avec Thomas Hill de 10h à 11h30.
Et nous ont rejoint dans ce studio Olivier Benkemoun.
Bonjour.
Pour parler cinéma. Salut Olivier. Sébastien Bordona pour
Bonjour,
la Thomas. BD.
Bonjour.
Ça va
à
bien
tous.
Sébastien.
Super bien.
Bon, et alors j'ai la chance de recevoir à nouveau l'un de nos plus grands comédiens de théâtre qui remonte sur scène pour nous faire sa thérapie. Bonjour Francis Huster.
Bonjour.
Et merci d'être là. Vous étiez plus animé en coulisses quand vous parliez foot.
Bah oui, on
parlait
foot. Oui, de ce qui s'est passé hier en finale.
Vous avez été choqué?
Ah bah très choqué, parce que normalement, quand tu sors du terrain, 10 joueurs du Sénégal,
sont
normalement exclus. Heureusement qu'il y a un 11e qui est resté sur le terrain, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne connais pas la suite, vraiment.
Vous pensez qu'il va y avoir des recours, peut-être, sur cette finale?
Oui, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être des recours.
Ouais, donc on en a peut-être pas fini,
on aura la possibilité de montrer pendant la Coupe du Monde face au Sénégal et à la Norvège qu'on mérite de remporter peut-être encore une fois la Coupe du Monde.
Francis Huster, toujours très fan de foot, hein. Je sais que vous suivez ça.
Je suis fan de foot parce que je trouve,
toujours.
Je sais pas votre avis, mais que ça ressemble exactement à notre monde et ce qu'on vit. C'est-à-dire, on croit que tout d'un coup, tout est perdu et à la dernière minute, tu gagnes le match, ou alors on croit que ça y est, on a tout gagné et puis finalement, tu le perds. C'est beau, c'est pour ça, le foot.
En tout cas, là, ce matin, vous n'êtes pas là pour nous parler de foot, mais de En Thérapie, l'adaptation au théâtre de la série israélienne Betty Pool, qui avait été adaptée en France déjà sur Arte. Tout le monde a vu la série, j'imagine. Sur Arte, en thérapie, excellente série. Série que vous, Francis Huster, délibérément, vous n'avez pas regardée.
Oui, non, j'ai pas voulu surtout regarder la série parce que la pièce, en fait, est pas une adaptation. C'est vraiment en une heure et demie, comme si c'était une saison entière. Mais pas seulement une saison, c'est vraiment une création. Et on a la chance déjà de savoir que c'est une création mondiale puisqu'elle sera reprise aussi dans plusieurs pays étrangers.
Oui, et puis l'idée, c'est aussi que les gens découvrent autre chose sur scène, même s'ils ont vu la série, c'est vraiment autre chose sur scène.
Ah ben bien sûr, c'est comme toutes les adaptations des pièces de Shakespeare, entre le film et la pièce elle-même sur scène, c'est tout à fait différent, parce que la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est que au cinéma, on n'est pas dans l'écran, on admire les acteurs qui sont sur l'écran, alors qu'au théâtre, je pense que le public joue. Il se met à la place de l'acteur qui est sur scène. C'est pour ça que c'est très difficile pour nous, parce qu'on ne peut pas faillir. Ou on est à 100%, ou alors le public nous rejette.
C'est ça. Et alors là, Francis Huster, vous jouez le rôle du psychanalyste, donc Armel, et c'est un rôle presque à contre-emploi, on peut dire, pour vous dans cette pièce, parce que vous avez une façon de jouer qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus en retenue que la personne que vous êtes dans la vie, finalement, non?
Je vous avoue la vérité. En fait, depuis tout le temps, même depuis le cours Florent, le conservatoire, la Comédie Française, je peux pas jouer un rôle sans imaginer l'acteur qui pourrait tenir ce rôle. Et suivant ce qui se passe dans le rôle, parce que des fois, il y a 2-3 rôles en un seul, je me dis, là, c'est Gary Cooper, là, c'est Cary Grant, là, c'est Gabin, etc. et finalement, en travaillant cette pièce, grâce à Charles Templon, qui est un jeune metteur en scène, justement, je me suis dit, ça sera du Eastwood, parce que j'ai énormément d'admiration pour Clint Eastwood, et quand même, on a 20 ans, 40 ans, 60 ans, on change d'emploi. Et il a réussi cette performance incroyable de vraiment, de lui flic, qui était puissant, qui était là, le héros, rien pouvait lui arriver. Tout d'un coup, il se retrouve dans Gran Torino, ça a été marquant pour moi, en train de faire les jeux dans sa cuisine et de parler aux jeunes et de se sacrifier. Et c'est exactement ce qui m'arrive dans thérapie. C'est-à-dire que, c'est pas... Huster en train d'éclamer la Comédie Française. l'aise, si Lorenzo et tout. Non, pour une fois, je la ferme. Et la moitié de la pièce.
Et ça fait du bien à tout le monde.
Mais ça fait du bien à tout le monde.
Oh là là,
mais ferme-la, Francis. Et donc, vraiment, et d'ailleurs, sur ma chaise dans la loge, j'ai marqué Eastwood pour me souvenir quand je referme la porte que arrête, fais pas ton cinéma.
En retenue
et tout dans le regard et dans l'émotion.
Il y a une solution technique aussi qui vous aide. C'est que pour une fois, vous êtes microté.
On est microté, les trois jeunes acteurs, Raphaël Rousseau, Yann Gaël et Tess Lauvergne. Et c'est merveilleux parce que cette génération, contrairement à la nôtre, n'est absolument pas obligée de déclamer. Nous, quand on était à la Comédie Française, le metteur en scène disait soutien, soutien, les finales. Non, mais sérieusement, que faites-vous là, madame? Si tu disais que faites-vous là, madame? Non, soutien, soutien.
Pour que le dernier rang vous entende.
Mais oui, et puis c'était vraiment le style de l'époque, même dans les films. C'était qu'est-ce que tu fais là? Tu fais là? Tu viens ou tu viens pas? Voilà. Et avec ces trois jeunes acteurs, je repasse en fait mon concours du conservatoire parce que je suis obligé de jouer de leur façon, c'est-à-dire de pas jouer, de tout ressentir. Et tu plonges dans le vide et puis voilà, tu t'envoles ou alors tu t'écrases.
Mais il y a beaucoup d'émotions grâce à ça, du coup.
Ah oui.
Ah oui, vraiment. Il y a beaucoup d'émotions entre vous, les comédiens, et entre vous et le public. Vous commencez la pièce en chuchotant, presque.
Oui.
Et dès ce moment-là, l'émotion commence jusqu'à la fin de la pièce. C'est très émouvant. Ah oui, ça nous a beaucoup plu.
Vous n'avez jamais fait ça auparavant?
Non, jamais.
De jouer avec un micro comme ça. En fait, c'est presque plus proche du cinéma ou de la fiction, ce que vous faites sur scène.
Complètement. Et ça permet, si tu veux, c'est une troisième version. Tu as le cinéma, tu as le théâtre sans micro, et puis tu as cette troisième version. Et je pense que c'est la version britannique. Les acteurs britanniques jouent avec un micro, donc ils ne jouent plus. C'est la différence entre dire « to be or not to be, that's the question ». Voilà comment on jouait à l'ancienne, et maintenant c'est plus du tout ça, c'est « to be or not to be, that's the question ». Voilà, c'est complètement différent. Enfin, pour moi, voilà, c'est tout à fait une autre carrière, une carrière du regard au lieu d'être une carrière de la voix.
Et alors, dans la série En Thérapie, un épisode, ça correspond à une séance chez le psy. Là, dans cette pièce, Armel, il suit tour à tour trois patients. Donc, il y a Eva, qui est une traductrice, il y a Thomas, un flic, et Guénaëlle, une religieuse, avec trois parcours très différents, mais avec un point commun, quand même, ils sont tous les trois assez jeunes. C'est très ancré dans l'actualité, cette pièce, parce que les jeunes, ils ont jamais aussi été touché autant par les troubles mentaux. En tout cas, on en parle énormément aujourd'hui.
Mais c'est absolument incroyable. Des centaines de milliers suivent une thérapie. Mmh. Et c'est justement notre responsabilité et la vôtre de forcer le pouvoir politique en France à faire en sorte que dans les lycées, quand ces jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, effectivement prouvent qu'ils sont mal à l'aise, qu'ils ont des problèmes, il faut absolument qu'il y ait un thérapeute, une thérapeute qui puisse leur tendre la main. Et malheureusement, il y en a vraiment, il y a eu un effort qui a été fait, mais il n'est pas assez considérable. Il le faut vraiment. Mmh. Et on le voit. Et les trois jeunes comédiens, d'ailleurs, ont suivi eux-mêmes, dans leur propre parcours personnel, une thérapie. Mais c'est sérieusement. Ouais. Moi pas, parce que je crois que le thérapeute ou la thérapeute aurait baissé les bras.
Puis finalement, on est un peu tous vos thérapeutes. Là, particulièrement dans cette pièce, mais en général.
Complètement.
Votre thérapie, vous l'avez faite sur scène.
Je l'ai faite sur scène et grâce à des metteurs en scène, justement, qui voulaient réincarner le rôle. C'est pour ça que je me bats toujours pour les œuvres de Shakespeare et de Molière, parce que je pense qu'il faut les réinventer. Un jeune d'aujourd'hui, de 15 ans, il est plus dans une ligne droite, il est dans une descente vertigineuse ou alors dans une montée pendant laquelle il a peur de s'écraser dans le choix du métier, dans le choix de sa vie personnelle.
Mais vous aussi, vous avez vécu des choses très difficiles dans votre vie. Vous aussi, vous avez eu des traumatismes. Et jamais vous avez eu ce besoin d'aller voir un psy, d'en parler?
On me l'a proposé plusieurs fois et j'ai toujours refusé. Toujours refusé parce que je voulais rayer ma vie personnelle et en fait d'avoir des dizaines de dizaines d'autres vies, ce sont ces rôles. Là pour l'instant je suis dans la vie de ce Armel. Je suis content parce que ARMEL, il y a dans Marcello, que j'admire tellement, Marcello Mastroianni et Federico Marcello Fellini, puisqu'il s'appelait aussi Marcello, il y a ARMEL et vraiment j'ai l'impression que c'est comme la Dolce Vita cette pièce, c'est-à-dire que tout aurait pu se passer, tout aurait pu être formidable, et tout finalement s'écrase.
Allez voir Francis Huster sur scène dans cette pièce exceptionnelle En Thérapie, mise en scène par Charles Templon avec Yann Gaël qui joue Thomas, Tess Lauvergne, on va les citer aussi, Raphaël Rousseau. C'est en ce moment au Théâtre Antoine à Paris. On va continuer à en parler et puis on va parler un petit peu de bande dessinée aussi, Sébastien Bordeneuf.
De façon microtée.
Ce matin de façon microtée, bien
s'il
sûr,
vous plaît. Toujours. Je vais déclamer une BD qui date de 1905, vous allez voir.
Ah, très bien. Et puis on va jouer avec un auditeur au Trois-Orient.
Europe 1.
Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1. 10h-11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Francis Huster pour la pièce En Thérapie qu'on vous recommande. C'est à voir en ce moment au Théâtre Antoine à Paris. En plus, c'est 19h, c'est parfait. Vous sortez du dîner sur les grands boulevards. C'est parfait.
Un petit mot de votre fille aussi, Toscane Huster. J'ai vu qu'elle avait une exposition, Ce qui nous lie.
Oui, à la Maison de la Conversation.
Dans le 18e,
oui,
à Paris.
Rue Grimaud.
C'est une artiste aussi.
Mais oui, elle, Toscane, elle est comme complètement arc-en-ciel. Elle est à l'UCL, à Londres, elle est maintenant franco-britannique, ouais. Et tout d'un coup, elle se prend de passion pour l'art, pour la science, pour elle veut pour la femme aussi, elle se prend de passion, et je crois que son exposition, enfin, les retombées sont formidables. Ouais. Alors, et je crois que c'est quelques jours, c'est du 23, il me semble, ça commence à partir le 23, ouais. J'ai l'impression.
Toscane Huster, ah oui, donc son exposition.
Elle veut montrer.
Quand on s'appelle Toscane en même temps, c'est normal.
Oui, bah c'est le côté italien, Lorenzaccio, Zeffirelli, la Toscane, mais elle a une personnalité qui peut-être être comme un miroir de ce qui se passe dans sa génération, justement. On peut vraiment avoir confiance en elle. Il ira jusqu'au bout de ses rêves, elle, justement.
C'est donc bien à partir du 23 janvier à la Maison de la Conversation. On va converser, nous, avec Sébastien Bordeneuve, maintenant, par les bandes dessinées, et de l'intégrale d'un certain Gustave Verbeek, une œuvre qui date de 1905.
Mais oui, j'ai envie de citer Corneille, hein, les années n'atteignent pas le nombre de la... Bah, c'est super vieux, ouais. Alors, je vous présente...
Oh là, il était pas prêt.
Je vous présente Gustave Verbeek, un type mort en 1937 à 70 ans. Ses parents ont donc été néerlandais, Verbeek, et il est né au Japon car son père était missionnaire. Alors, il a appris le dessin à Paris, ce monsieur, puis il est parti aux États-Unis où il est devenu un illustrateur connu. Le succès va arriver pour lui en 1903 grâce à ses dessus-dessous de Betty Boop de chou et Père Moustachon. Et là sort donc chez Delcourt l'intégrale des dessus-dessous de Betty, Boutchou et Père Moustachon. Alors ils ont été publiés entre 1903 et 1905 tous les week-ends dans le journal le New York Herald et ce pendant 18 mois. On peut dire que c'est une vraie performance.
Juste à ce moment de votre chronique, Sébastien, je me permets une question. Pourquoi vous nous parlez des dessus-dessous de Betty, Boutchou et Père Moustachon? Parce que j'ai pas encore bien compris l'intérêt.
Parce que dessus-dessous, Betty Boutchou et Père Moustachon, ce sont des aventures dessinées en 12 cases. Et pour les dessiner, fallait être très très doué, ou alors un peu dérangé, ou alors les deux. Car, suivez-moi, les 6 premières cases de l'aventure, vous les lisez normalement. Et pour avoir la suite de l'aventure, vous retournez la BD. Et c'est en relisant les 6 premières cases, mais à l'envers, que vous aurez les 6 dernières. Car tout est dessiné pour que l'image soit lisible dans un sens comme dans l'autre.
Dessus-dessous.
Exactement.
Ah, c'est fort.
Ainsi, Moustachon, qui est un personnage un peu bougon, si vous le regardez en ayant retourné le livre, ses grosses moustaches vont devenir les couettes de la toute mignonne Betty Boutchou, effet garanti pour les jeunes et pour les moins jeunes, faut bien l'avouer. Alors,
À l'envers, à l'endroit, comme disait
Karen Sherry. Exactement. Alors, au début j'avais la vanne, mais quelques lignes après. Alors, au début du XXe siècle, dans les illustrés, il y a eu une grosse mode qu'on a appelée, bien avant Diana Ross, les Upside Down, des histoires, des images donc lisibles à l'envers, à l'endroit à l'envers. Beaucoup de dessinateurs politiques aimaient dessiner, par exemple, des personnalités, et à l'envers, ça faisait un âne ou un éléphant, on rigolait. Et à l'ère Meiji, au Japon, donc l'ère Meiji, c'est fin 19e, début 20e, il y avait ce qu'on appelait les Joje. En fait, c'était des gravures de divinités japonaises sur bois, et on pouvait les admirer dans les deux sens. Gustave Verbeek est né au Japon, donc il a dû voir ça. Les Upside Down, beaucoup d'illustrateurs vont s'y mettre. Ils vont produire des mondes poétiques, baroques, et puis quand même assez instables, car Une jolie femme, une fois retournée, eh ben, peut devenir un monstre. C'est vrai qu'on ne se méfie pas assez, Francis. C'est pour ça qu'il faut lire chez Delcourt. Il faut lire chez Delcourt, dessus-dessous, l'intégrale de Gustave Verbeck, une intégrale que je vous offre, monsieur Huster. Vous allez voir, c'est renversant.
Et on salue votre compagne, Sébastien Bordelas. On l'embrasse.
Gustave Verbeck.
Verbeck.
Très fort.
Très
impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Merci Sébastien pour cette découverte. Allez, on va jouer maintenant avec un auditeur. On va jouer aux 3 ou rien. Et vous connaissez la règle, 3 bonnes réponses ou sinon, vous ne gagnez rien.
Et toute cette semaine, on vous offre chaque jour un séjour pour deux à l'hôtel 5 étoiles Thalasso et Spa de l'île de la Lagune. C'est à Saint-Cyprien, dans le sud. Hein. Saint-Cyprien, Relais Château. Véritable oasis méditerranéenne nichée au milieu des jardins fleuris et de l'eau. Je vous conseille d'aller voir les photos sur hotel-île-lagune.com. C'est fabuleux, ça fait voyager. Hôtel 5 étoiles, Europe 1 réservé pour vous. 3 soins d'hydrothérapie par personne, s'il vous plaît. Le restaurant étoilé L'Allemandin et son chef Frédéric Baquet vont régaler vos papilles avec une gastronomie inspirée de la richesse du terroir et du bassin méditerranéen, évidemment.
J'espère qu'on va offrir ce magnifique séjour à Emmanuel ce matin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Thomas et bonjour à l'équipe et à Monsieur Huster.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Bienvenue Emmanuel, vous nous appelez d'où ?
D'Agde.
Ah bah c'est pas très loin de Saint-Cyprien.
Ouais, non, parfait. Pas très loin, mais nous venons d'emménager, donc je ne connais pas encore vraiment la région.
Ah. Oh, voilà, une petite thalasso pour découvrir, ce serait pas mal.
Voilà. Ça serait pas mal, un petit enveloppement.
Et qu'est-ce qui lui arrive à Jérémy ? Pourquoi il met la musique coquine ?
Il pense à ses soins.
Non, il pense au Cap d'Agde.
Oui, il y a un festival au Cap d'Agde qui est magnifique et qui est réputé.
Mais les gens sont habillés au festival. Oui, d'accord.
Bien sûr, attention, pas
avec des films et des pièces pas absolument pain, magnifiques.
Parce que Jérémy, notre réalisateur, quand il part au Cap d'Agde, c'est sans valise.
Ah, c'est autre
chose.
Vous voyez,
il part léger, quoi.
Ouais, ouais. C'est vrai.
Sans chemise, sans pantalon, bien sûr. Allez, Emmanuel, attention, on va être sérieux. Là, j'ai 3 extraits donc sonores pour vous. Il va y avoir un chanteur, un film et une série. Si vous reconnaissez les 3, c'est gagné. C'est parti.
Vous écoutez rien du tout. Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça se passe bien au travail. Avez-vous des idées noires en ce moment ? Je disais que j'avais passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement.
C'est pas évident ce matin.
Très dur.
Mais vous pensez à Francis Sutter, vous aurez toutes les réponses. Emmanuel.
Alors Emmanuel, c'est parti, c'est à vous, on vous écoute.
Je ne suis pas sûre, le premier, je ne connais pas, c'est Zazie peut-être ?
Non.
Alors non, c'est un homme.
C'est un homme avec une voix aiguë, dont le papa s'appelle Louis.
Très grand chanteur Chédide. Français. Oui.
Mathieu Chédide.
Bravo.
Bien joué. Ensuite, le film.
Non, pareil, je n'ai pas trop d'idées.
Alors,
dans un jeu de cartes, c'est la carte en plus. Souvent, on la met de côté.
Le Joker.
Bravo.
Allez. Et pour le dernier, je pense à Monsieur Huster. Ça serait pas les Dames de la Côte ?
Ah non.
Non.
Non, non. Ah. C'est en lien avec l'actualité de Francis Huster.
Avec sa pièce en ce moment.
Ah, il fallait écouter l'émission.
Ah, vous savez.
C'est le générique d'une série.
Tellement.
C'est le générique d'une série qui passait sur Arte.
C'est pas Zodiac ?
Non.
Une série où
qui porte
avec
le même
des
nom
gens
que
qui s'allongent. Mais on n'est pas au Cap d'Agde.
La pièce de Francis en ce moment ?
Si vous allongez sur un terrain,
quand
un canapé.
Quand on va voir un psy, on fait une offre ?
On est sur un sofa, sur un canapé.
On fait quoi quand on va voir un psy ?
Aïe, le gong est tombé.
Ça s'appelle Tu suis une.
Une, il fallait
une
thérapie.
Ça commence.
J'aurais dû écouter.
Vous écoutiez depuis ce matin.
C'est la pièce de Francis Huster en thérapie, adaptation de la série donc, qui a été diffusée sur Arte. Et c'était le générique de la série qu'on a écouté. Emmanuel, je suis désolé, Emmanuel.
J'aurais dû écouter du début.
On n'aime pas ça.
Merci quand même.
Bon, il va falloir venir.
Est-ce qu'on peut poser une autre question et c'est pas du tout pistonné ? je vais vous poser une question et si vous y répondez, allez, ça sera, vous aurez réussi. Voilà la question.
Je prends sur mon dos.
Elle est très simple, la question. Quel est le roi de France qui était le plus grand? Il mesurait plus d'1m92. Ah ouais. Et c'est un des rois les plus célèbres de l'histoire de France.
Bon, le roi Soleil, peut-être?
Oh mince.
Ouais. Ah ben bah, François 1er alors.
J'ai hésité.
Bon Emmanuel, il faut retenter votre chance. Oui. Vraiment, oui. N'hésitez pas à nous renvoyer
vos questions depuis le début les émissions.
Oui, pardon. Oui, ben je vous remercie beaucoup.
Merci Emmanuel.
Merci à tous les auditeurs qui jouent aux Trois Auriens. Souvent, les extraits ont un lien avec l'actualité de l'invité du jour. Donc essayez d'écouter un petit peu avant. Et puis Emmanuel, évidemment, vous pouvez retenter votre chance. Si vous aussi, vous voulez tenter de gagner cette thalasso dans cet hôtel 5 étoiles à Saint-Cyprien.
Qu'est-ce qui se passe? C'est des remontées acides.
Oui, voilà, c'est ça.
Petit problème de Gaviscon, là.
Tyrény, ça ira. si vous voulez tenter de gagner cette thalasso dans cet hôtel 5 étoiles, vous envoyez MEDIA, M-E-D-I-A-S, par SMS au 739-21, 2 fois 75 centimes, plus coût du SMS. Et on vous rappelle vite, peut-être demain.
Europe 1.
Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h-11h30 avec Thomas Hill et avec Francis Huster ce matin pour la pièce En Thérapie qu'on vous recommande. C'est en ce moment au Théâtre Antoine à Paris à 19h. C'est près de toi.
C'est tout autre chose, c'est Philippine Lavray qui joue Mercedes dans la comédie musicale Le Comte de Monte Cristo, où vous prêtez votre voix, Francis Huster, pour interpréter Alexandre Dumas.
Ben oui, c'est vraiment une troupe de jeunes qui se défoncent et je leur souhaite de faire un spectacle légendaire, comme la légende de Monte Cristo au Dôme. Ils vont commencer le 27. Et puis après, ils ont une tournée immense dans tous les grands zéniths, dans toute la France et tout. Parce que ce qu'il y a de magnifique, il y a aussi son partenaire, Joy Steers. Et c'est que ce duo
aussi.
Là, oui, ce duo est peut-être, sera peut-être inoubliable. Je leur souhaite, vraiment.
Elle sera avec nous, Philippine, vendredi pour la 500e aussi. Elle est en train de préparer un petit blind test, figurez-vous. Un blind test en live. On vous a jamais proposé, vous, Francis, de jouer dans des comédies musicales? Vous en seriez capable, d'ailleurs?
Si on m'a proposé de jouer dans des comédies musicales, le premier, d'ailleurs, c'est Jean-Laurent Cochet, quand on a fait la station Champbaudet à la Comédie Française, il a sandwiché et on chantait vraiment un véritable orchestre qui était l'orchestre de la Comédie Française. C'était magnifique.
Vous aimez ça,
Non, mais c'est très impressionnant. Alors, j'ai un double, en fait, qui est Francis Huster, le Francis Huster, qui a été faire, qui était le pharaon à la télévision.
Dans Massinger.
Mais oui, dans Massinger.
Bien sûr.
J'ai pris un pied incroyable.
Ah,
des fois, j'ai gagné, puis j'ai perdu, puis j'ai gagné. Non, mais c'était magnifique.
Et puis là, vous êtes en tournage de Zodiac aussi, qui va débarquer
Zodiac
bientôt sur TF1.
Réalisé par Bruno Garcia, et je suis enthousiasmé. C'est magnifique, c'est une série en cinémascope, ce qui est rare, vraiment, de tourner des séries. C'est pour TF1, grâce à Anne Didier, et la production magnifique, Philippa Production. Et
vous avez terminé le tournage?
On a terminé le tournage, il y a 30 comédiens, et j'ai eu des partenaire féminin, magnifique pour revenir sur ce
vous
que
vous avez vu, il change sa voix.
C'est Philippe Aphonix, et puis une troupe de comédiens, Landry, Junio, etc. Non, c'est magnifique, mais je ne vous dirai pas qui est le serial killer ou la serial killeuse.
On va regarder.
Voilà.
Et il y a de l'amour, évidemment.
Il y a de l'amour. Il y a des crimes, et puis il y a ce commissaire Keller qui revient 20 ans après.
Et ça sera quand?
Hâte de voir ça.
Pour l'instant, on n'a pas le droit de le dire officiellement, mais enfin, pas
juste
avant la
officieusement,
Coupe du Monde.
Dites-nous.
Pas avant la Coupe du Monde de football. Non.
Donc après la Coupe du Monde.
Je ne sais pas. Si c'est pas avant, je ne sais pas.
Allez, on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun. Oui. Et le film à regarder pour démarrer la semaine, c'est The Rip. C'est sur Netflix.
Que vous le dites bien. Non, c'est donc vendredi sur Netflix. The Rip avec Matt Damon et Ben Affleck. Troisième collab des deux copains d'enfance qu'on avait découvert dans Will Hunting, c'était en 97 déjà.
Toc toc, police de Miami.
Toc toc, The Rip est inspiré d'une histoire vraie.
Il est bien cet extrait.
J'ai fait court aujourd'hui pour les extraits. Donc, inspiré d'une histoire vraie, le scandale des Miami River Corps, des flics ripoux de Miami. C'est pour ça peut-être qu'ils ont choisi deux amis amis d'enfance pour faire des flics à Miami.
Très bon.
The Rip en argot de la police américaine, je maîtrise parfaitement, ça veut dire l'arnaque. Et The Rip, c'est le genre de film où le spectateur va soupçonner chaque personnage de haute trahison. Chacun son tour. Ah, et comme il n'y a que des policiers autour et dans l'histoire, bah, il va y avoir du grabuge, monsieur Hill.
Dis-moi, les flics braqueurs, ça te parle ?
Oh là là.
L'histoire. Matt Damon et Ben Affleck sont à la tête d'une brigade de policiers très particulière. C'est une brigade anti-stup qui mène des missions musclées pour chercher de l'argent. L'argent de la drogue. Et en principe, le rendre, bien entendu. Et là, ça démarre avec un tuyau. On leur dit que dans une maison, il y a 150 000 dollars. Et allez, les gars, on y va.
On a reçu une alerte sur Crime Stopper concernant cette adresse. Oh la vache.
Eh ouais, tu peux le dire, mon coco. Oh la vache, oh, la brigade.
Très bon, vos extraits,
j'ai fait ce que j'ai pu. Merci Netflix France. Oh. Alors là, bah ouais, mais ils auraient pu dire oh la vache comme ça.
Oui,
mais
oui, vrai, bien sûr.
La brigade vient d'être.
Bon boulot de dialoguiste, en tout cas.
La brigade vient d'être aiguillée sur vers un taudis où ils sont accueillis par cette jeune Colombienne qui a l'air toute innocente, qui affirme que non, pas du tout, il y a pas d'argent de la drogue ici et que la maison était à sa pauvre grand-mère malade. Mon œil, parce que la brigade a une arme secrète. D'abord, ils ont des grosses masses pour tout défoncer. Mais ils ont aussi un chien très sympa qui s'appelle Wilbur, qui est un chien renifleur de billets de banque. J'avais jamais entendu parler des chiens renifleurs de billets de banque. Ouais, sacré clébard, ça. Et là, c'est bingo, ils vont tomber non pas sur 150 000, mais 20 millions de dollars. Ah oui. Et alors là, ça donne des idées, surtout chez des policiers dont les heures sup sont pas bien payées.
Tu ferais quoi avec ça, Mama ? Rien que ça. Tellement de choses.
Voilà, 20 millions de dollars, ça va agir comme un révélateur dans les rangs de la petite brigade et on va voir très vite qui est pourri et qui ne l'est pas. À partir de là, tout le monde va s'énerver et se méfier tout le monde. L'argent de la drogue, ça rend un cran et ensuite, ça va défourailler sévère.
T'es un traître, Mike.
Je te fais pas confiance sur ce coup-là, on a putain de problème.
Voilà, ça va tourner mal. Une grande partie de l'intrigue se déroule dans la maison où l'argent a été retrouvé, façon huis clos, etc., etc. Bon, Matt Damon, Ben Affleck, il y a aussi Teyana Taylor qui a reçu le week-end dernier le Golden Globe du meilleur second rôle féminin. Sans être le polar de l'année, c'est un film d'action correct avec ce petit plaisir de découvrir
qui joue, qui ment,
est-ce que tout le monde est un traître,
etc. Quand même dans
voilà,
le film.
Mais je voulais parler des traîtres.
C'est une histoire vraie.
C'est une histoire inspirée d'une histoire vraie.
Ouais, voilà. Incroyable.
Où les flics de Miami qui effectivement suivaient la drogue et l'argent de la drogue s'en sont mis un peu dans les fouilles.
Ah,
voilà,
d'accord.
C'est ça l'histoire.
Il y a le plaisir des dialogues évidemment.
Vous en avez mis un dernier, mais
oh la vache.
C'est à voir donc sur Netflix via l'appli Canal Plus. Merci Olivier Benkemoun. Allez, on termine avec une petite foire aux questions pour Francis Huster. C'est parti. Est-ce que vous pensez, Francis, avoir déjà eu la grosse tête?
Non, jamais.
Jamais. Dans quel autre métier vous auriez pu exceller?
Entraîneur de foot, sélectionneur de l'équipe de France.
Tout simplement.
Rien que ça.
J'aurais adoré. D'ailleurs, je ressemble des fois à Didier Deschamps. On envoie des photos de lui et de moi.
Ah, il y a quelque chose.
Dans les mêmes expressions.
Pourriez-vous me citer le nom d'un comédien qui vous est passé devant pour un rôle?
Oui, Pierre Arditi pour le film d'Alain René, parce que je l'ai refusé, parce que c'était un rôle de salaud et j'ai jamais voulu accepter un rôle de salaud dans un film.
Ah oui, vous voulez pas être un salaud?
Non, jamais. C'est impossible. Je peux pas. Je veux
que
pas.
Être un mec bien. Est-ce qu'il vous arrive de jouer encore à des jeux de société?
Des jeux de société, oui. Justement aux échecs avec Toscane, qui est très très forte, qui est dans un club d'échecs à Londres. Ouais. Et quand elle me bat, je suis super heureux pour elle et fou de rage.
Pourriez-vous me citer une personne qui vous a vraiment aidé dans ce métier?
François Florent. Sans François Florent, j'aurais jamais fait ce métier parce que je devais être chirurgien. Ouais. Et c'est lui qui a convaincu ma mère de me laisser faire ce métier. Ah oui, je lui dois tout à François.
Est-ce que l'haleine d'un partenaire vous a déjà posé problème lors d'un tournage?
Et si oui, lequel?
Attendez, je suis en train de chercher parce que la liste est longue. Alors je suis comme... Mais non oh.
C'est toujours une question qu'on se pose.
Elle est
quand
super cette question. Dis donc, si tu ne peux pas piffrer quelqu'un. Attendez, Fabrice Lucchini sous la tente? Non, mais pas du tout.
En quoi est-ce que vous vous êtes amélioré avec le temps, Francis Huster?
Au point de vue homme ou au point de vue acteur?
Oui, dans votre vie.
Au point de vue homme, ne plus jamais me regarder.
Ah,
jamais. Je ne regarde jamais. Non, non, je... tout ce que je fais, je me juge pas, ouais. c'est fait. Ouais. Et surtout, au contraire, essayer de d'attendre que les autres s'expliquent avant de, la sale habitude que j'avais, c'est mais je sais ce que tu vas me dire, ouais. tu vas voilà.
Avec qui est-ce qu'on vous confond parfois ?
Avec qui on me confond parfois ?
Didier Deschamps.
Non, mais on me confond avec... Ah oui, bah peut-être en ce moment avec ce que j'étais avant. On m'avait confondu avec Gérard Philippe, c'était un honneur, c'était la fierté. Ouais. Maintenant, on me confond beaucoup avec Clint Eastwood.
On termine là-dessus. Merci beaucoup, Francis Huster.
Merci à vous.
Allez, vous applaudir. Allez applaudir Francis Huster.
Tu vas, hein.
Débrouillez-vous. C'est au Théâtre Antoine. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Merci, Francis Huster. C'était Culture Média et vous retrouverez Thomas Hill tout à l'heure de 10h à 11h30 sur Europe 1. Il sera en direct. Il reçoit aujourd'hui Raphaël Mesrahi pour la 11e édition de la Nuit de la Déprime, à voir ce soir sur France 4, et Lara Fabian pour son nouveau single Je veux danser qui sort aujourd'hui. Il est bientôt 5h, c'est la fin de nos programmes de nuit. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Alexandre Lemaire pour Europe 1 Bonjour, votre premier rendez-vous d'infos de la journée. Et nous, on va se quitter comme toujours en musique, et aujourd'hui avec le bijou de Jeanne Gabriel.
Ça faisait bien longtemps que je ne t'avais pas vu. Tes larmes sont passées, tes bouches se sont connues. As-tu apprivoisé, as-tu charmé des corps et les as-tu aimés? Oui, les as-tu aimés comme on s'aimait alors? La bouche que j'ai touchée ne te ressemblait pas. Je les ai goûtés, parfois même aimés. Et les avoir aimés, les avoir écorchés ne veut pas dire enfin que le goût de ce bijou ne sera plus le mien. Que le goût de ce bijou ne sera plus le mien. Tous ces moments qui passent, ton ombre reste là. Mon corps se relève alors qu'on passe les oiseaux. Je ne manque de rien sauf peut-être. Tu vois, tu peux bien embrasser les rêves que je vois. La bouche que j'ai touchée ne te ressemblait pas, elle n'avait pas ton goût. Ah, je les ai goûtées, parfois même aimées. Et les avoir aimées, les avoir écorchées ne veut pas dire enfin que le goût de ce bijou ne sera plus le mien. Que le goût de ce bijou ne sera plus le mien. De soi. Ma gorge s'est éteinte, elle n'avait plus de voix, comme étouffée, tu vois. Je ne me souviens plus d'autre chose que toi. La bouche que j'ai touchée ne te ressemblait pas, elle n'avait pas ton goût. Ah, je les ai goûtées, parfois même aimées. Et les avoir aimées, les avoir étanchées ne veut pas dire enfin que le goût de ce bijou ne sera plus le mien. Sera plus le mien.
Bijoux, c'était Jeanne Gabriel sur Europe 1. Et tout de suite, un joyau de l'info, le brillant Alexandre Lemaire. Bonjour Alexandre.
Bonjour Marlène, comme vous y allez, dites-moi. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Mercredi, mardi 20 janvier, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes en direct. Europe 1, bonjour, 5h, 7h avec Marion Gagnon. Bonjour
oui,
Marion.
Bonjour à tous.
La météo de ce mardi.
Alors les pluies vont enfin se calmer cet après-midi dans le sud-est. Par contre, on a une nouvelle perturbation qui arrive sur le nord-ouest.
Et vous nous détaillez voilà. Tout ça dans un instant, bien sûr. sur Marion. Europe 1, bonjour. Dans l'actualité de ce mardi 20 janvier, le retour fatal du 49-3, la mort dans l'âme, Sébastien Lecornu confirme donc le recours à cette procédure d'adoption sans vote pour faire passer aujourd'hui la partie recette du budget à l'Assemblée. Le RN et les Insoumis vont déposer une motion de censure. Les agriculteurs se donnent rendez-vous à Strasbourg, manifestation en tracteur sous les fenêtres du Parlement européen contre le traité avec le Mercosur. On va parler aussi de la loi sur la fin de vie puisque le texte arrive aujourd'hui au Sénat dans une version remaniée. Alors, on ne parle plus d'aide à mourir, mais d'assistance médicale à mourir. Vous voyez que les mots changent, mais une partie des soignants sont toujours aussi inquiets, comme le docteur Ségolène Perrucchio, présidente de la Société d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle viendra vous dire tout à l'heure pourquoi elle pense que cette loi est dangereuse. Rendez-vous avec elle à 6h20. Votre histoire dingue, Marion, ce matin ?
Ah, attention, une demande en mariage ratée ce matin. Ça se passe en Australie, oui, comme vous dites.
Vous nous racontez dans un quart d'heure. On ira aussi ce matin aux États-Unis. Émeute dans le Minnesota contre la police américaine de l'immigration. Le Pentagone s'apprêterait à déployer 1500 militaires. On sera aussi en Italie, où toute la presse italienne rend hommage à Valentino, l'empereur de la mode mort à 93 ans. Dans la revue de presse internationale, c'est dans 10 minutes. D'abord le temps, Marion, pour ce mardi, encore de la pluie donc, dans le sud-est ce matin.
Ce matin, toujours de fortes pluies sur le Roussillon et sur l'est de la Corse. À Vivario, par exemple, il est tombé en moins de 48 heures, 258 mm. Donc vraiment toujours attention sur ces départements. On a toujours 5 départements en vigilance orange actuellement pour pluie, inondation et pour crue. C'est l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et les deux Corses. On a de la neige aussi à nouveau sur les Pyrénées et la montagne Corse. Et puis ailleurs, écoutez, le temps sera souvent gris ce matin avec de nombreux brouillards localement givrants sur le nord-est. Bonne nouvelle quand même pour cet après-midi puisque le soleil va s'imposer sur l'est du pays. Sur le sud-ouest aussi, il va faire beau vers le Pays Basque. Mais je vous le disais tout à l'heure, Alexandre, on a une nouvelle perturbation qui va rentrer lentement par le nord-ouest et qui va d'abord stagner sur la Bretagne avec de la pluie. Beaucoup de pluie sur le sud de la Bretagne et puis du vent, des rafales jusqu'à 90 voire 100 km/h sur le littoral breton. Côté température, ça se rafraîchit du côté de Dijon, 2 degrés.